Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous pour la prochaine heure. Une prochaine heure qui sera consacrée à des lectures pas nécessairement si récentes, mais pourquoi? Parce qu'on est en mode club de lecture. Alors, une fois par mois, ou presque, eh bien, on se retrouve à quatre pour échanger autour de différents titres. Je pense que si vous êtes un auditeur régulier de La vie en BD, bien, vous connaissez la mécanique. Pour les autres, bien, je vais vous la rappeler. C'est simplement qu'on s'alterne à tour de rôle, donc la sélection des titres qui sont proposés en mode club. Et ensuite, bien, on lit chacun les titres qui ont été proposés et on en discute, on en échange au fil donc, de l'émission. Et par « on », bien, j'entends et je ne crois pas m'être présenté. Donc, Raymond Poirier, j'ai le plaisir d'animer cette émission, évidemment. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie donc, de mes trois collègues du club de lecture. Marco Duchesne, salut.
Bonsoir tout le monde.
Édouard Tremblay, salut.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Et Jérôme Vermette, salut.
Bonsoir.
Alors, donc, on se lance. Et j'ai envie de dire, en fait, que je vous ai proposé un parcours un brin nostalgique ce soir, puisque c'était à mon tour, donc, de faire la sélection. Et ça faisait un bout de temps que je vous disais, mais il me semble que ce serait le fun de juste parler d'une série, de parler de quatre titres de la même série et d'explorer un peu cet élément-là. Et éventuellement, on se demande bien, quelle série explorer. Je trouvais qu'on avait beaucoup proposé de Spirou et Fantasio. Donc, même si ça aurait été intéressant de voir les quatre auteurs, je me suis dit, on a déjà parlé un peu de la série au fil des derniers clubs. Alors, allons-y avec un univers qu'on a juste touché une seule fois. Je pense que c'était en Radioton quand Marco nous avait entraînés aussi dans des classiques pour nous parler de l'aventure à la maison. Et tu nous avais amené dans Le Devin d'Astérix. Alors, bien, vous aurez compris que moi aussi, j'ai choisi ce soir de vous amener et de nous amener vers l'univers d'Astérix le Gaulois en quatre albums. Donc, quatre albums que j'ai choisis d'abord, en fait, parmi ceux que je préférais. Donc, je n'ai pas essayé de faire un choix, chronologique ou d'aller chercher le premier, le dernier et le reste. Donc, d'aller chercher plutôt quatre albums qui m'ont marqué pour diverses raisons à l'intérieur d'un ensemble d'albums qui m'avaient marqué ou dont on se rappelle. Mais ça m'a paru incontournable de commencer je vais présenter les choix. En fait, rapidement, là, c'est le tour de Gaulle d'Astérix, Astérix et Cléopâtre, la Zizanie et le domaine des dieux. Et comme d'habitude, je vais vous expliquer brièvement pourquoi j'ai choisi ces différents albums avant d'ouvrir la porte à la discussion. Et j'en profite également pour mentionner que malheureusement, l'émission n'est pas diffusée en vidéo et vous manquez le regard un peu patibulaire d'Édouard Tremblay avec des lunettes de soleil façon révolutionnaire des années 40 et autres. Alors qu'il donne un regard plus intimidant peut-être un peu ce soir et qu'il a l'air content de se faire.
Rapportez-moi la tête d'Alfredo Garcia.
Alors, donc, le premier titre, le tour de Gaulle d'Astérix, ça me paraît un peu incontournable. Je voulais quand même aller en chercher un en début de série, un ou deux en début de série. Et je me suis dit, c'est un peu avec cet album-là qu'on va fixer un peu des éléments incontournables d'univers d'Astérix. Donc, la référence, par exemple, au poids d'Obélix et à sa susceptibilité envers ce poids-là, c'est pas mal dans le premier album où on la retrouve de manière un peu plus accentuée physiquement. Les personnages, à part peut-être cet automatique, mais sinon, de façon générale, les personnages se fixent aussi physiquement. C'est la première apparition d'Astérix donc qui arrive là un peu par hasard et qu'on retrouve un peu au fil de l'album. Donc, ça aussi, c'est intéressant.
Tu veux dire d'idées fixes.
D'idées fixes, exactement, parce qu'Astérix, on aurait fallu le trouver au début. En parallèle, moi, je me rappelle, jeune, cet album-là, c'en était un que j'aimais bien lire parce qu'il y a vraiment un aspect road movie que je trouve assez intéressant. Et je voulais, dans la sélection, justement, avoir des albums un peu de voyage, mais des albums un peu plus en huis clos. Et je trouvais quel meilleur voyage à proposer, donc à travers l'ensemble des régions de la Gaule et nous permettre de voir, et surtout peut-être avec un regard un peu plus âgé, fort un peu aussi des références culturelles françaises, desquelles on a peut-être un peu plus s'imprégner quand on était jeune, d'aller voir un peu comment on réussit à insérer un peu ces différents régionalismes-là à l'intérieur de l'album. Donc, pour créer ce qui était dans des regards de jeunes, peut-être un peu des univers très distincts, donc de sentir un peu une différence de zone en zone, mais là auquel on peut justement faire un peu plus de raccroche, de rapport avec nos yeux d'adultes. Et c'est un album qui est pour moi qui est très rythmé, qui va vite, qui va droit au but, et ça dès les premières cases. L'action, c'est tic-tic-tic, ça se met rapidement en branle. Donc, je pense qu'il y avait une dynamique de rythme que je trouvais aussi agréable. Il faut dire que quand Astérix et Obélix s'en vont voyager, j'ai pas l'impression qu'ils tournent longtemps autour du pot, sauf peut-être dans Astérix en Corse, que j'aurais pu vous proposer également, là, où le voyage prend un peu plus de temps avant de démarrer, avec toute la séquence de l'anniversaire. Et bref, donc ça, c'est le premier album, donc le tome 5, le Tour de Gaulle d'Astérix. Et je me suis dit, ben, tant qu'à être dans le voyage et tant qu'à être dans les débuts et dans un peu les albums incontournables de la série, on va aller vers le tome 6, Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, en fait, c'est un album qui, j'ai l'impression, dans l'esprit de beaucoup, est ancré dans le film d'animation. C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment le meilleur film d'animation, à mon avis, d'Astérix. Entre les chansons, l'histoire, la manière dont c'est amené, c'est très bien fait, mais on oublie parfois qu'il y avait un album à l'arrière de ça. Et là, en plus, avec le film de Chabat qui va chercher du film animé, donc on oublie peut-être l'album qui, lui aussi, est absolument délectable et délicieux. Donc, en termes, on parlait de voyage, ben c'en est un autre où, justement, on nous amène en voyage dans une région un peu plus éloignée. Mais contrairement à, au Tour de Gaulle de l'Astérix, je trouvais que le voyage qui était proposé dans l'Astérix et Cléopâtre est quand même un peu plus tranquille, entre très gros guillemets. Donc, on se déplace quand même à l'intérieur de l'Égypte, mais on reste dans le même esprit de paysage. On n'est pas dans un road movie comme tel, mais il y a quand même un objectif précis à atteindre. Donc, on n'est pas exactement dans le même rythme. Alors, je trouvais que ça devenait un comparatif intéressant en matière de voyage. Et ça nous permet aussi d'avoir un album qui est très ancré dans l'esprit de la Gaule, de la France d'aujourd'hui, et d'aller chercher donc une touche un peu d'exotisme par rapport à la série. C'était quand même dans les premières fois où on sortait de manière massive là, de ces cultures-là. Et en même temps, ben, l'étudiant en études anciennes en moi a toujours apprécié les références à l'Égypte ancienne et le reste et la manière dont on amène aussi cette architecture-là. Alors donc, j'avais envie de vous proposer donc le tome 6, Astérix et Cléopâtre, et peut-être d'abord et avant tout pour ses vertus historiques. Ensuite, c'est peut-être avec Astérix et Cléopâtre mon autre album favori personnel dans la série, donc La Zizanie. La Zizanie, pour moi, c'est... en fait, puis j'avais été peut-être un peu... avec Le Devin, je pense que c'est les deux bons huis clos dans la série où on sort très peu du village, somme toute, on reste très proche. Et je trouvais justement que ça devenait intéressant d'aller chercher des titres qui sont un peu plus éloignés en termes de série, donc les tomes 15 et tomes 17. Mais de ne pas aller non plus complètement à l'opposé puis d'aller trop loin dans la série. Donc, on reste quand même dans les belles années de René Goscinny, Albert Uderzo, de cette collaboration-là. Et avec La Zizanie, ben, c'est vraiment toute la manière par laquelle on amène le côté psychologique du conflit. Et on retrouve aussi dans mon autre choix, le tome 17, Le Domaine des Dieux. Donc, deux albums où, ben, dans le fond, on a conscience de la réalité, de la force des personnages des Gaulois, donc qu'on ne peut vaincre, qu'on ne peut battre. Alors, on essaie éventuellement de débattre autrement. Donc, dans La Zizanie, ben, de profiter du côté peut-être un peu, disons, bagarreur des Gaulois, susceptible des Gaulois, et d'essayer de pousser ça à son paroxysme en jouant un peu avec les dynamiques, les amitiés à l'intérieur même du village. Et dans le tome 17, ben, c'est carrément par l'acculturation, par l'embourgeoisement qu'on essaie de les amener. Et le 17 qui, à mon sens aussi, amène beaucoup de thématiques qui ont été récupérées dans d'autres albums, je pense à Obélix et compagnie, entre autres, donc avec l'idée des Romains qui ne sont pas nécessairement tous des ennemis comme tels, mais que leur influence amène un changement de dynamique à l'intérieur même du village, dans les rapports entre les villageois, dans les rapports de force, dans les rapports de pouvoir. Et le jeu de rapports de pouvoir qu'on retrouve aussi dans La Zizanie, alors avec justement la dynamique entre Abaracourci et Astérix, donc l'importance réelle versus l'importance politique des personnages. Donc encore là, je trouvais qu'il y avait une belle mise en parallèle dans la réalisation d'un esprit à huis clos. Et en même temps, dans le domaine des dieux, il y avait aussi, et ce qui m'avait fait pencher vers cela plutôt que d'autres dans la logique de huis clos, c'est les dynamiques à l'intérieur des différentes dynamiques. Donc, dans la mesure où on a, oui, les Romains contre les Gaulois, mais au-delà de ça, les Romains ont d'autres esclaves, ont d'autres conquêtes que les Gaulois. Donc, il y a une dynamique avec le groupe d'esclaves qui vient défricher les forêts, qui éventuellement, dans le fond, va se retrouver aussi victime de la force et de la volonté des Gaulois à ne pas laisser ce projet-là se faire, qui vont essayer de changer la dynamique, qui vont créer un conflit à l'intérieur de ça, mais qui ne soldera pas nécessairement comme ils le pensent avec les esclaves qui finalement vont se négocier des conditions de travail plus intéressantes que l'esclavage, ce qui est quand même pas très difficile, on ne met pas la barre trop haute. Et donc, il va y avoir un jeu un peu aussi là-dessus. Donc, je trouve que le domaine des dieux, un peu comme La Zizanie, ben avec les retournements de situation, avec les ajouts, donc on réussit à bien jouer avec les attentes et d'autant avec le domaine des dieux. Donc, je trouvais que c'était des albums aussi intéressants à vous proposer un peu en parallèle. Bon, si je résume peut-être les histoires, pour terminer mon temps très rapidement, le Tour de Gaulle, donc c'est l'histoire d'un pari. Donc Astérix qui fait un pari avec un centurion, avec un Romain, donc
un
qui
préfet,
va être en mesure
ouais.
un préfet romain, merci, qui va être en mesure de ramener des spécialités de toutes les régions de la Gaule. Donc, évidemment, il va réussir à le faire. Au terme de tout ça, ça va se finir avec un souper, un banquet. Dans Astérix et Cléopâtre, donc un architecte égyptien qui vient chercher l'aide de Panoramix pour construire un palais à la gloire de César dans le contexte d'un pari que fait César avec Cléopâtre. Astérix et Obélix vont venir avec Panoramix. Ils vont construire le palais, évidemment. César ne laissera pas trop les choses aller. Il y a des rivalités à l'interne aussi, mais évidemment, ils vont réussir et ça va se finir avec un beau souper et un banquet. Dans la zizanie, eh bien, César donc, essaie, par d'autres manières que la force d'aller vaincre les Romains, va trouver donc un criminel qui s'amuse à semer la zizanie, dans le fond, entre toutes les personnes qu'il rencontre par différents moyens psychologiques. Et donc, il va tenter de l'amener dans le village. Ça va se solder avec, ça va se terminer avec une grande guerre. Et évidemment, les Gaulois vont réussir. Ça va se finir avec un beau banquet. Et dans le domaine des dieux, eh bien, là, on essaie de les amener par la culture romaine, donc en vendant les forêts des alentours pour permettre un développement immobilier qui va faire pression sur le village. On espère qu'avec ça, ben, tranquillement, on va les amener dans la culture romaine comme telle. Donc vraiment, à travers cet élément-là, ben, les Romains vont tenter un peu de faire leur place. Finalement, il va y avoir une dynamique entre les deux. Les Gaulois vont s'en sortir. Ça va finir avec un petit banquet. Donc, je vais très brièvement. J'assume que la plupart des gens les ont lus ou les ont minimalement en tête, ces albums d'Astérix. Alors voilà. Donc, pour la brève présentation et pour mon monologue d'une dizaine de minutes, je vous laisse vous lancer. Je ne sais pas trop par quoi vous avez envie de commencer.
Si je peux me permettre, comme le veut la tradition, d'entamer le tout, je pense de toute façon qu'avec la manière dont tu les as présentés en ordre chronologique, ça peut être fort intéressant. Tu vois, ça utilise les deux à l'extérieur, les deux à la maison. Mais avant toute chose, merci, parce que Astérix, pour moi, ça a été et ça a toujours été ma série fétiche de tous les temps. C'est une série que mon père, que je m'étais un très, très grand lecteur, mais qui était fan fini aussi de la série, avait toute la série à l'époque. Et donc, j'ai grandi avec ça. Écoute, j'ai lu ça. Je regardais ça avant même de savoir lire. J'ai des souvenirs vivaces, entre autres, d'Astérix et Cléopâtre, où j'essayais de m'imaginer qu'est-ce qu'elle pouvait bien raconter. Parce que, de toute manière, moi, les symboles hiéroglyphiques ou les lettres, ça changeait absolument rien. J'y comprenais que dalle. Mais, nostalgie, donc, pour moi aussi. Donc, si on y va avec le Tour de Gaulle, enfin, le Tour de Gaulle, un de ceux, je pense, qui est peut-être les plus pittoresques, justement, de par ce côté, hein, le tour de la vieille France, les produits locaux. Mais au-delà de ça aussi, ce florilège de personnages, je veux dire, les Gaulois qu'ils vont rencontrer tout au long du chemin, que ce soit des amis ou des antagonistes, qui est très intéressant aussi parce que, bon, historiquement parlant, la Gaule, l'acceptation, disons, l'alliance avec les Romaines, c'était comme ça. Hein. Tout le monde ne s'entendait pas. Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. On le voit bien aussi dans le bon combat des chefs, mais on pourrait y revenir avec le domaine des dieux un peu. Mais donc, le florilège de personnages de celui-là est juste tellement intéressant, tellement attachant, sans parler de cet effort exceptionnel qu'ils ont fait pour les noms dans cet album-là en particulier, je veux dire, aussi bien pour les Gaulois que pour les Romains. Là, je suis désolé, mais encore est-il fallu que je le suce. Merci. c'est absolument extraordinaire. Là. Je veux dire, ils ont toujours eu des noms extrêmement drôles, mais je trouve que dans le Tour de Gaulle, C'est comme justement, bon, on est rendu à quoi? Cinquième album. C'est comme si, justement, tu sais, là, la recette tient, la chimie tient, tout est en place. Là, tout d'un coup, on voit apparaître, justement, là, ce qui va être les symboles, les icônes, les trucs qui vont marquer, justement, cette série-là. Bon, oui, l'obésité d'Obélix, mais tout le reste aussi. Là.
La prise culturelle, en fait, aussi, parce que le Tour de Gaulle, c'est un guide touristique de la France, à peu de choses près. Tu sais, c'est assez hallucinant, non seulement dans les spécialités, parce que c'est ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il ramasse une spécialité dans chacune des régions de la Gaule, mais évidemment, les clichés régionaux. Hein? Bon, le plus beau que moi, comme toi, Édouard, moi, je suis tombé dans Astérix très, très jeune. Puis c'est ce qui fait la beauté de cette intemporelle de cette série-là, c'est que à tous les âges où on retombe dedans, on découvre des nouveautés. Puis, un des plus beaux clins d'œil là-dedans qui finit par avoir prise dans l'univers, selon moi, c'est celui où, à chaque fois qu'on se retrouve après ça dans le Midi de la France, les références à Pagnol sont toujours là. Et c'est le cas là-dedans, jusqu'aux personnages qui en sont des caricatures, tu sais, où on joue à la pétanque et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une ambiance touristique dans cet album-là. Par rapport aux autres albums d'Astérix.
Touristique puis historique aussi, parce ouais. qu'on pense, on joue beaucoup, entre autres, je pense qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, la collaboration, tout le passage quand on est à Lyon, dans le fond,
ben,
entre autres aussi
même,
avec la
y
résistance,
y
les ruelles.
Il y a à travers tout ça dans Astérix, chez les Go avant, par exemple.
Oui, effectivement.
Là, mais effectivement, c'est sûr que c'était fort encore pour eux autres, là.
Et c'est toujours un peu, je ne sais pas Marco, comment tu t'as reçu ou t'as re-reçu de ton côté ce tour de Gaulle d'Astérix-là?
En fait, ce qui est fascinant, je sais que vous êtes toutes, vous avez toute une portion historien, études anciennes, que je n'ai pas. Mais curieusement, moi, pour ma part, ma vision est toujours actuelle. Donc, moi, mes yeux sont avec le lecteur d'aujourd'hui. Et curieusement, ton choix était tellement ancré dans l'actualité. Tu sais, si je prends les quatre albums, là, on finit de passer la COVID et Zizani est un virus, le détritus est un virus. T'sais. Ensuite, le tour de Gaulle, le virus nous a forcés à faire du tourisme local. T'sais. Et le domaine des dieux, en ce moment, on parle de la Palestine et c'est les pays qui colonisent les territoires occupés. Et finalement, tu sais, avec l'aide internationale, c'est Cléopâtre. Là. Moi, ça m'a fait rire parce que ces albums-là, pour moi, et je ne sais pas si ça aurait marché avec quatre autres, mais pour moi, c'est Goscinny n'est jamais, jamais à côté de l'actualité. Il est intemporel, là. Il est toujours d'actualité. Pour ce qui est du tour de Gaulle, à le relire puis à revoir, puis je me suis remémoré ce fameux aspect qui m'a toujours fasciné, là, les histoires à la maison, les histoires à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui motive ce peuple tranquille qui n'a rien à prouver, qui résiste toujours et encore à l'envahisseur en restant chez lui, entouré de Romains, mais il faut qu'il sorte de temps en temps? C'est les défis. On les met au défi de, je sais pas, moi, de faire le tour de Gaulle, faire un banquet pour aller chercher les lauriers de César pour faire de la soupe, je me rappelle plus quoi, là. À chaque fois, et si ça devient une mission, ils n'ont rien à prouver. La mission, c'est pour aider. Écoute, et c'est ça qui, je pense, qui fait la force de ces sorties à l'extérieur, d'exporter ce village-là, autre qu'ils sont gaulois et tout, mais d'exporter cette force-là à l'extérieur, d'aller pas prouver, mais d'aller transmettre la force qu'ils ont, et pas la potion, là, pas ce désir de résistance-là à l'envahisseur. Tu sais,
on le voit un peu dans les séquences, à un moment donné, en fait, quand on réfère au Tour de France, aussi à l'aspect inspiration, mais on les reçoit, puis en plus, je pense que c'est dans une des villes qui est imprégnée dans ce Tour de France-là, donc Il y a le côté compétition sportive, en fait, qui en ressort aussi, mais qui dit compétition dit inspiration. Mais évidemment, dans le contexte politique de l'album, c'est la résistance contre l'envahisseur qu'on va transmettre aussi. Donc, c'est effectivement, si on peut aller chercher encore là différentes natures d'inspiration à travers cet aspect-là. Là.
Oui, j'aime beaucoup ce que Marco souligne, justement, cette espèce de transmission d'un esprit, parce qu'on le retrouve effectivement dans le Tour de Gaulle, beaucoup justement de ceux qui les aident. Ah oui, on a entendu parler de votre pari, on vous aide pour ça, pour la fierté, l'orgueil gaulois, bon, qui reste encore très typique bon, de ce qu'on peut connaître des Gaulois. Mais tu sais, in extenso aussi dans les Bretons, je veux dire, c'est la même chose. Ils amènent la potion, mais ça aboutit pas, la potion. Là, je veux dire, c'est l'inspiration de la résistance qu'ils amènent avec eux. Là, c'est le courage.
Ils lui donnent des feuilles de thé, puis ils partent au combat.
et c'est ça. Là, et je me souviens plus dans quel album. Où, tu sais, justement, là, ils n'ont plus de potions, puis les gens se gardent tant pis, on va aller se battre pareil contre les Romains, puis là, Panoramix dit, enfin, je vous retrouve, vous êtes fous comme vous l'avez toujours été, mais vous êtes ensemble, tu sais. Je veux dire, c'est ça l'esprit d'Astérix et d'Obélix, là, tout ça, c'est cette union, c'est cette force qu'ils vont justement nous amener, nous transmettre un peu.
Aller chercher le symbole, hein. Quand ils sortent, c'est pour les symboles, là. Là, c'est toute la France avec le spécialité, mais quand ils sortent, c'est pour vraiment aller chercher les lauriers de César pour en faire une soupe ou une sauce. T'sais, c'est quand même le bouclier Arven. C'est ça aussi, là, aller chercher ce symbole-là. Là. et chaque fois qu'ils sortent, c'est ça. Bon, peut-être pour en Amérique, le poisson, c'est autre chose, mais quand même. C'est un élément important de la potion magique, là.
Mais c'est la particularité, justement, je pense, des quatre albums, si vous regardez bien, de Astérix et Cléopâtre. Parce qu'Astérix et Cléopâtre, je veux dire, dans les trois autres, on défend le village. Je veux dire, on défend l'honneur du village ou l'intégrité du village. Alors que dans Cléopâtre, justement, c'est le seul où on a un élément extérieur qui vient demander l'aide des Gaulois, comme dans les Bretons, dans le fond. Là.
Il va défendre un élément... Il défend la construction d'un temple, d'un palais pour César, quand même.
En plus.
Ils vont défendre.
Oui, mais ils ne défendent pas la construction du palais comme tel, plus que l'idée qu'on est plus grand que César, donc l'idée d'une résistance ailleurs.
C'est l'honneur de l'Égypte face aux Romains, en fait, c'est que le combat reste le même.
ça revient un peu au pari, parce que c'est deux éléments motivés aussi par le pari, le tour de Gaulle, donc pour parier contre César ou contre un représentant de César, et là, c'est César directement qui défie l'Égypte en disant « Mais vous êtes une grande nation, c'est devenu les Romains désormais la référence, c'est l'Égypte qui doit aller se prouver avec ce palais-là que non, ils sont capables de faire des grandes choses encore. »
Et
c'est...
même au-delà de ça, par pur altruisme aussi, ne serait-ce que pour sauver la vie de Numérobis, parce que reste que c'est des gens, justement, profondément, je sais, gentils et prêts à aider, justement, qui ne supporteraient pas une injustice comme celle-là, là, tu sais, donc, et Panoramix le premier, là, parce qu'on s'entend que Panoramix, justement, compromettre la potion magique, la sortir du village de quelque manière que ce soit, c'est toujours, et on en reviendra quand on parlera de la Dizanie avec le secret et tout, mais c'est ça, là, c'est-à-dire, ça reste que c'est l'arme nucléaire, là. Les Gaulois, non, mais c'est vrai, là. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est le secret, écoute, le plus dangereux qu'il peut pas avoir, là, tu sais, quand on y pense, là.
Puis dans le fond, puis à travers ça, je mentionnais tantôt, tu sais, à quel point, dans le fond, quand on replonge dans Astérix et Cléopâtre, c'est, on est imprégné des films d'animation. Parce que, tu sais, au bout du compte, c'est souvent, c'est, moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le film que j'ai vu et revu étant jeune. Donc, ce qui fait qu'après ça, on oublie qu'il y a comme l'album. Puis après ça, c'est difficile de le voir désincarné dans le fond du film.
Les chansons, ils sont
Je ne sais pas si je suis assez vieux, mais moi, j'ai une affection particulière pour Astérix et Cléopâtre pour la première édition, que celle que j'avais que je dois avoir encore, qui ne tient plus debout, là, mais... Parce que ça a été mon premier contact avec une BD qui disait qu'il était une BD. Rappelez-vous de la couverture avec son cadre qui disait qu'il avait été utilisé tant de crayons pour cet album-là, tant de choses. Et là, on énumère tout ce que ça a pris pour faire l'album. Et moi, Ticu, qui regardait ça puis qui disait le truc, ah oh, ouais, OK, c'est un album de. Tu sais, c'est un album qui prenait conscience et qui faisait conscience que, écoute, ça, c'est un album de bande dessinée.
Oui, puis autant
ça,
qu'en juin...
Pour la première fois, là, c'était ça.
Autant qu'en juin avec la référence avec Elizabeth Taylor puis le film aussi qui était le plus grand film jamais réalisé avec...
Ça fait l'aspect cinéma, là, ouais.
La Cléopâtre de l'album, d'ailleurs, c'est une Cléopâtre d'Hollywood, là. D'Hollywood des années 50, là, c'est clair.
Oui, mais le clin d'œil, c'est ça, au film de Mankiewicz, au film de Demise aussi, de dans les années 30, je veux dire, c'est ça. Donc, c'est presque une transition naturelle, je veux dire, on part de la grandeur du cinéma, du grand écran, on l'amène en album, en le présentant, justement, comme parce que je me souviens, mon père avait la même couverture, où justement, moi-même, j'étais bien impressionné par ça, les crayons et tout, mais on le présente d'une manière qui est très cinématographique, et on revient avec le film d'animation et le film de Chabat, donc tout est bouclé.
À quelque part, c'est un des aspects de génie de cette série-là, parce que là, on parle de la série au complet, mais Astérix et Cléopâtre est un bon représentant de ça, là. C'est qu'Astérix est une série de bande dessinée qui est très ancrée dans son présent. Puis encore aujourd'hui, là, tantôt, on va parler du domaine des dieux. Là, pour moi, cet album-là, il est comme tellement d'actualité. Puis on n'a même pas besoin de penser à la colonisation en Israël. On a juste à penser à la gentrification à Québec. Là. Mais ceci étant dit, c'est une série qui est ancrée à la fois dans la culture populaire du 20e siècle, dans les thématiques aussi, mais qui fait des belles références, je trouve, aussi à l'histoire. Puis, je pense, entre autres, là, il n'est pas dans un des albums qu'on a lus, là, mais dans Astérix et les Gaules, il parle des druides qui sont dans la forêt des Carnutes. Ben, c'était vrai que les druides se réunissaient dans la forêt des Carnutes. Bon, là, après ça, qu'est-ce qu'on en fait? T'sais, ils font des références aussi avec le cinéma, on vient d'en parler pour Elizabeth Taylor. Astérix et les Gaules, c'est des vieux films de guerre des années 40, t'sais, d'espionnage des années 40, puis tout ça, mais...
Mais il le fait toujours subtilement.
Qui fait que cette série-là, on ne cesse jamais de découvrir des nouvelles affaires, que ce soit sur l'histoire, la culture populaire ou ce qu'elle nous dit sur nous maintenant encore. Tu sais, c'est...
Puis les références historiques qui ont quand même des assises qui ne sont pas inintéressantes. Je me rappelle même TQ, je m'étais posé la question, je pense, dans une expo science où on avait fait le comparatif entre Astérix puis l'architecture romaine, les camps, ces trucs-là. Puis. C'est finalement, c'est, je veux dire, il y a des trucs qui sont complètement champ gauche, comme la couleur des tentes, ces choses-là, mais il y a des trucs qui sont historiquement viables, puis autant dans, ce soit dans la série Cyclopas, c'est un bon exemple, mais le Tour de Gaulle aussi, je pense, c'est avec la reconstruction des villes, Lutèce dans la Serpe d'Or qu'on va amener. Donc oui, il y a la parodie des Parisiens, qui du trafic, etc., mais dans l'organisation de la ville, il y a quand même une volonté, je dirais pas nécessairement que ça soit historique, mais d'une certaine historicité. Parce qu'en même temps, sinon, ça fait ressortir les anachronismes qu'on met dedans aussi. Ouais. Les anachronismes seraient moins drôles si la série n'était pas groundée. C'est la référence de la poste dans Astérix, le Tour de Gaulle, ne serait pas rigolote si ce n'était pas ancré dans une certaine historicité. Autant que tous les anachronismes qu'on met dans Astérix et Cléopâtre ne sortiraient pas autant que si justement on ne l'avait pas réfléchi concrètement d'un point de vue historique.
Je trouve un déclin d'œil qui est d'une grande finesse pour moi, là, selon moi, là, au niveau de la culture générale. Je crois que c'est dans le domaine des dieux, celui-là où César parle de lui à la troisième personne. c'est la guerre des Gaules. C'est quand même assez fin là, comme clin d'œil, ça. Là.
Mais c'était, je me souviens même distinctement, moi, la première année de l'université, fallait analyser, enfin, un roman historique ou une bonne série.
Oui, oui, oui.
Et la professeure nous avait interdit de commencer avec un Astérix, parce qu'elle disait, vous n'avez pas encore assez de connaissances, assez de background pour être capable de l'analyser comme il faut.
Aïe, aïe.
Parce que le génie de Goscinny est tel que, oui, il y a toute cette historicité-là, romaine, antique et tout, mais justement, comme on le disait, je veux dire, et comme disait Marco, il y a une intemporalité là-dedans par ses anachronismes, par ces thèmes qui font qu'il faut faire très, 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 très attention quand on essaie justement d'aller tirer l'histoire de ça, parce qu'avec Goscinny, il est trop fort pour la Ligue, c'est pas compliqué.
Et peut-être pour rester un peu, Marco, t'es peut-être un peu plus silencieux sur Astérix et Cléopâtre. Donc...
Oui, mais en fait, ce que vous disiez à propos de l'histoire et tout, mais je pense que ça vient du les anachronismes plus l'histoire, pas véridique, mais ancrée dans une histoire plus documentée et plus vérifiable. Je pense que ça vient Goscinny. Brille par sa subtilité du clin d'œil. Alors, si tu installes quelque chose d'historique, de documenté, de vérifiable, d'ancré dans quelque chose qui est établi, et que tu y glisses de l'anachronisme, des choses, il faut que ça soit subtil, il faut que ça soit des clins d'œil. Et si tu le fais trop gros, et si tu le fais trop souvent, tu perds. Et c'est ce qui est arrivé le dessinateur, quand Goscinny est mort, Uderzo a continué tout seul. Lui, la subtilité, ben, il est pogné avec. Le clin d'œil, pour lui, c'était des tics. Alors, c'est pour ça que la série s'est mise à dégénérer, mais avec Goscinny, c'est ces inserts-là, tranquillement, subtil, où il glisse sa anachronisme, et c'est pour ça qu'elle marche. Et elle disparaît à travers le... Alors, vous, historiens, voyez tout ça, là. Mais moi, j'ai tout cru. Moi, je pensais que les Beatles étaient vraiment à l'époque de l'Astérix, quand j'ai lu l'Astérix et les Bretons.
Moi, ce qui avait été long à catcher, c'était la blague sur l'accent anglais puis les manières de parler. Là, je comprenais qu'on comprenait un accent, mais après ça, éventuellement, c'est dans l'apprentissage des langues que tu finis par comprendre comment il a créé son accent britannique.
Ah non, mais c'est absolument merveilleux, je veux dire, les clins d'œil à la bouffe puis tout le clin
d'œil. C'est un autre des aspects brillants de la série, la manière de jouer avec les clichés nationaux et régionaux. Peu importe, Astérix, la Grande Traversée a probablement moins bien vieilli, surtout dans le contexte qu'on a de nos jours, là. Mais là, t'en as beaucoup là-dedans qui reste encore très, 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 très drôle au niveau des clichés. Puis ils le savent là, que c'est des clichés, ils savent que c'est pas vrai. On le sent que les auteurs le savent, à quelque part, qu'ils font ça juste pour eux, puis ils rient d'eux-mêmes de toute façon. On s'entend que la France passe au cash une couple de fois aussi. Là-dedans. c'est quand même pas rien de la part de des Français. Oups, excusez.
Mais bon, avant que tu te cales plus encore, Jérôme, puis que tu nous mettes dans l'eau chaude, évidemment. Hein? Transitionnons, toi, tu viens sur la zizanie que tu es en train de sommer tranquillement dans l'émission. Hein? Mais justement, qui est un trait de vieille France, pour parler des orgueils, mais en même temps, on a les mêmes. Je viens d'un village de 200 personnes, on trouve le moyen d'être en chicane avec le village aussi de 200 à côté. Là, d'après quelles raisons sont bonnes pour faire une guéguerre de clocher? Québec-Montréal. Mais tu sais, dans la zizanie, ce qui est intéressant, au-delà justement, et encore une fois, je pense que je fais un clin d'œil à ce que Marco disait, c'est-à-dire l'intemporalité de la chose, parce que justement, même, on parle juste des réseaux sociaux, les rumeurs et tout ça, c'est pile. Ça, c'en est presque fréquent, comment Goscinny a vu quasiment notre époque là-dedans. Et le grossissement de tout ça, là, quand on parle juste de la fameuse rumeur d'Abraham Grossier qui se dit « Oh oui, j'aurais pu être sénateur. » Puis là, 15 plages plus loin, il était rendu sénateur à Rome. Puis là, c'est monsieur le sénateur. Puis je veux dire, ça prend des proportions comme épouvantables. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est que justement, ça, du point de vue historique, ça souligne aussi cette fameuse mésentente d'orgueil qui a toujours régné entre les chefs gaulois et de ce qu'on en sait qui est une raison pourquoi justement la Gaule a été conquise, parce que si on se souvient de ce qu'on en sait de l'époque d'Alésia, je veux dire, Vercingétorix attendait une armée de secours qui était épouvantablement nombreuse, et pourquoi ça a chopé l'orgueil des chefs, justement cette dissension, cette zizanie qui a été semée parce que tout d'un coup, un s'est mis à se prendre plus important que l'autre et tout. Et c'est comme ça que Tullius Détritus met en place toute sa chose. Là. Il en choisit un, il dit « c'est toi le plus important ». Et là, tout d'un coup, ben, toute la belle amitié part en vrille. Là.
Oui, puis enfin, encore là, dans un contexte où on nous ramène à la BD, moi j'aime bien la remarque de Bonnemine à Mané qui dit « Oui, mais tu sais, si deux imbéciles éventuellement racontent l'histoire du village, ça ne s'appellera pas les aventures de Bras Groutique le Gaulois. » Donc, on revient au clin d'œil du quatrième mur, pratiquement, là-dedans aussi, dont Marco parlait dans la série Cyclopathe, mais qui sont présentes tout au long de la série aussi.
Moi, j'avais du fun avec Détritus, ben je me disais, oh wow, les Romains ont inventé l'arme bactériologique ou biologique. Je veux dire, ils insèrent dans une bombe à l'intérieur du village. Et ce qui me fait, ce qui me faisait triper là-dessus, c'était les cases, quand ils parlent, c'est en verre.
Oui.
Alors, c'est comme, tu sais, le gaz qui se répand là, d'une bombe, d'une arme bactériologique lancée. T'sais. Alors, je me disais que les Romains ont inventé l'arme bactériologique.
C'est une belle trouvaille parce que, subtilement, visuellement, il monte la tension qui monte. Quand il commence à se chicaner, c'est vert pâle. Puis là, plus la tension monte, plus ça devient vert foncé dans les bulles. Les bulles des paroles, c'est quand même une chouette trouvaille visuelle pour montrer la tension qui se passe entre les deux personnages. Là.
Et surtout pour montrer que ça vient de Détritus lui-même. Parce que des méchants, il y en a eu, puis des bagarres, il y en a eu, mais ils n'ont jamais réutilisé ce processus-là.
C'est vrai.
Et là, pour celui-là, ils l'ont utilisé comme si il était vraiment toxique.
Ouais,
c'était ce personnage-là qui était...
Avec une vraie. Avec une, ce qui n'est pas pire, par exemple, c'est pour un huis clos. C'est l'album qui finit avec une bataille véritablement épique, en plus, avec une grande, une pleine planche qui montre les unités diverses un peu partout sur le village. C'est comme. C'est du jamais vu dans un album d'Astérix. Je pense que c'est le seul où ça arrive à ce point-là aussi. Là,
mais... il y a chez Lego aussi, quand même, que c'était assez épique à la fin. Où bon, t'as, oui, t'as, t'as l'image comme ça. Il y a un
dessin comme ça qui montrait tout ça, mais oui. Je vois ce que tu veux dire, puis bon, les Belges aussi, là, qui étaient pas si mal là-dessus, mais c'est quand même bien ce huis clos-là qui finit par une grande bataille épique. Ça reste quand même de la grande aventure en même temps. Tu sais, je veux dire, on s'éclate là, avec ce qu'on y lit en tant que tel, mais ça reste aussi de l'aventure hyper divertissante.
Et double page, d'autant plus intéressante et d'autant plus importante, à mon avis, que je veux dire, Goscinny et Uderzo ont toujours, toujours, toujours pratiquement réussi à infiltrer les pirates dans leurs albums. Peu importe de quelle manière. Et je veux dire, là, c'est probablement le plus par la bande que tu peux pas le faire. Écoute, en vignette, dans un coin, le gars a débarqué du mauvais côté du village. Il est face à la mer. Tout ce qu'il y a, c'est des pirates. Fait que, ben, tant pis, on va aller frapper sur les pirates. T'sais. C'est extraordinaire, parce que, je veux dire, tu sais, des fois, évidemment, quand ils sont en mer, justement, dans Cléopâtre et tout, c'est sûr qu'on va tomber sur des pirates. Je veux dire, c'est les ennemis qui reviennent. Mais là, quand même, chapeau, là, tu sais, fallait y passer pour réussir à les plugger comme ça, là.
Quand même, la question, quand limite, même. Qu'on peut se poser, puis je la lance un peu, parce qu'on a déjà parlé du devin dans le passé, mais à quel point, tu sais, la zizanie, c'est le 15e, le devin, c'est le 19e, donc ils sont quand même assez proches. Puis on sent qu'il y a quand même des thématiques sur la crédulité, dans le fond, parce que au bout du compte, la zizanie, il la met parce qu'ils sont crédules, parce que ils vont acheter un peu, ils vont se laisser désinformer, si on va chercher un peu dans l'actualité. Et donc, ils vont pousser plus loin aussi le côté de désinformation, dans le fond, dans le devin. Mais encore là, il y a des bases qui sont mises dans la zizanie qui vont pouvoir être exploitées par après dans ce contexte-là, où c'est un peu les mêmes personnages qui vont se laisser embarrificoter pour un peu les mêmes raisons aussi. Là. C'est parce que dans la zizanie, c'est là qu'on découvre beaucoup plus les femmes du village, leur influence. Qu'on va pouvoir exploiter par après dans le devin aussi, où ils vont reprendre un peu cette ligne-là qu'ils ont lancée à l'eau dans la zizanie, par exemple.
Dans la zizanie, on parle de désinformation, de manipulation, mais dans le devin, on parle de croyance surtout. Là.
Oui, c'est
le
vrai.
Le devin est un aspect beaucoup plus de croyance une religion, en un interprète de la religion. Que des informations. Là, on touche quelque chose de beaucoup plus sensible que la zizanie. La zizanie, c'est quelqu'un qui exploite un peu, comme tu disais, l'orgueil puis les personnages en les manipulant, tandis que le devin, lui, il exploite leurs croyances. C'est comme un gourou.
En donnant un show, d'ailleurs, ce qui est
pas plus, là. Et si les Romains s'en servent, c'est un coup du hasard, tandis que pour Détritus, c'est il est vraiment expédié pour faire la chose.
Oui, c'est vrai.
Ça montre que les thématiques comme ça qui sont quand même présentes, en fait, puis ça nous montre aussi que rendu au 15e album, on avait quand même assez établi les dynamiques de village aussi pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les détourner, pour que ces dynamiques-là deviennent un générateur de conflit.
Qui revient par après aussi, Obélix et compagnie, le cadeau d'Astérix. Mais toujours, c'est un élément étranger qui arrive au village.
Idem, je veux dire, dans le domaine des yeux, encore une fois, on essaie de semer la dissension dans le village, mais involontairement, parce qu'on ne sait pas trop comment bon, les Gaulois vont accepter tout ça, mais je veux dire, encore une fois, leur crédulité, ou en tout cas l'appât du gain, va faire que là, ils vont saisir l'occasion, comme ça arrive à un paquet de petits villages touristiques ou de petits trucs au-delà de ça. Et encore une fois, c'est ce magnifique chevauchement, justement, entre l'américanisation qu'on a moderne, justement, la gentrification, comme tu sais, Jérôme parlait, mais en même temps, la romanisation, la romanité, c'était comme ça qu'elle se propageait. Pourquoi les populations devenaient peu à peu romaines? Ben, c'est parce que le Rome t'amenait un paquet d'avantages, t'amenait une citoyenneté, mais au-delà de ça, t'amenait les termes, t'amenait l'eau courante, t'amenait les aqueducs, t'amenait l'éducation, t'amenait... Tu sais, je veux dire, puis on le voit là-dedans, on le voit dans le combat des chefs également, je veux dire, tu sais, et non seulement ça, mais c'est avéré que, je veux dire, À la fin de l'Empire romain, je veux dire, la Gaule, c'était les Gaulois qui défendaient. Ils défendaient plus l'Empire que les Romains d'Italie eux-mêmes. Là.
En fait, le domaine des dieux, il ne va pas se leurrer à quelque part, en tenant compte de ce que tu dis là, Édouard. C'est un album qui parle du système dans lequel on vit, puis c'est pareil comme Obélix et compagnie. Ce système-là, tel qu'il est présenté dans l'album, existe parce qu'on vit dans un système capitaliste où la monnaie tient lieu de richesse. Et donc, on standardise pour ça, en tant que tel. Je ne pense pas qu'à l'époque des Romains, ça avait autant d'importance que ça. Là, évidemment, on est en plein dans l'anachronisme quand tous les commerces du village, quand tout le monde devient commerçant de la même affaire dans le village, où tous les produits se standardisent pour faire plaisir aux nouveaux arrivants qui possèdent énormément d'argent, puis qui éventuellement, selon la loi de l'offre et la demande, vont faire en sorte que ça ne marchera plus. Hein? Donc, le système va mourir de lui-même, puis là, ça fait plaisir aux néolibéraux là, de penser qu'ils ont raison. Mais, mais ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même, en utilisant le prétexte d'histoire romaine, un album sur carrément sur notre époque, encore aujourd'hui. Je ne me rappelle pas en quelle année cet album-là est sorti, mais il s'agit juste de penser à la standardisation des villes à travers le monde, littéralement à travers le monde, qui se ressemblent de plus en plus toutes. Le domaine des dieux est en plein sur la coche, là, je m'excuse, mais est en plein sur la coche.
C'est une des seules attaques de Rome qui n'a pas besoin d'infiltrer le village.
Oui.
Et je veux dire, là, le but était, on va envoyer quelqu'un qui, on va faire en sorte que, ou on va utiliser quelqu'un qui... Non, là, le but est construire tout autour et tout ça va se propager et va agir sur le village. Tu sais, c'est comme, là, on installe un système. C'est pour ça que c'est encore plus... celui-là est encore plus d'actualité parce que ce système-là, c'est encore ça aujourd'hui.
Oui, puis c'est de changer la dépendance d'une certaine façon, parce qu'il y a tout le message écologique qui est difficile aussi d'ignorer de ce côté-là. Mais c'est l'idée, dans le fond, qu'on a un système qui fonctionne au bout du compte, un peu d'autarcie, entre guillemets, où il y a le village qui est entouré de ressources, donc qui a accès à la mer, qui a accès à la forêt, qui a des champs, on peut imaginer aussi, donc qui explique pourquoi, tu sais, au bout du compte, à part à l'intérieur du village, où ils semblent plus avoir un système de troc. Mais sinon, qui n'ont pas vraiment besoin de commerce, qui n'ont pas vraiment besoin de lien, entre guillemets, avec le monde extérieur. Mais du moment où tu commences à naître la civilisation, il faut aussi que tu crées des dépendances. Puis pour créer des dépendances, il faut que tu élimines les ressources. Et donc, c'est pour ça aussi, pour moi, que l'élimination de la forêt prend autant d'espace. Donc, le message du remplacement, dans le fond, d'une force normale par une autre force, par l'urbanisation outrance, par l'étalement urbain, par etc., etc. Donc, il y a toute cette dynamique aussi de jeu-là qui nous ramène encore là à nos réflexions systémiques, là, au bout du compte, parce que encore là, c'est dans le débat actuel où on déforeste, où on enlève les terres agricoles, où on enlève tout ce qui est nourricier pour étendre la ville.
Où on fait des troisièmes liens.
Et qui fait quand même justement un beau parallèle entre le premier et le dernier album, parce que justement, dans le Tour de Gaulle, on essaie de barricader les Gaulois, mais physiquement, avec tout simplement une barricade de bois, ce qui est complètement inefficace. Mais là, on y va, et c'est peut-être, je ne sais pas, c'est autant Goscinny que les Romains, bon, qui deviennent de plus en plus fins finaux au fil des albums, parce que là, justement, on a aucune barrière. Au contraire, on retire des arbres. On fait juste montrer l'impact, la force de la romanité, de la modernité avec tout ce qui vient, puis on les laisse se corrompre eux-mêmes à quelque part.
Autre clin d'œil, autre élément dans cet album-là qu'il ne faut jamais oublier parce qu'à cause de son titre puis de sa prémisse, on pense beaucoup à la partie gentrification, là, par exemple, comme on est en train de parler, mais on parle des luttes syndicales aussi dans cet album-là. Puis ça aussi, il le fait brillamment. OK, oui, c'est bien de se défendre nos droits, mais là, tout d'un coup, même les syndicats s'amollissent. Ça, hein, donnez-moi quelques coups de fouet, j'ai pas fait tout le travail que j'aurais dû, je me sens mollasson. Puis bon, selon moi, ce qui est un des meilleurs gags de toute la série où il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Mais c'est ça, même quand, en parenthèse, ils vont parler de ça, ne serait-ce que le temps d'une planche, ben, ce qu'ils en disent reste très, très fort, très puissant, là, et encore d'actualité.
Et oui, non, ça, toute l'influence que ça a sur les légionnaires, qui, eux autres aussi, vont foutre le boxon puis se mettre à avoir des revendications syndicales également. Là,
oui, puis après ça, c'est tout le jeu aussi de promotion, puis le marketing, puis l'idée des rêves qu'on vend, parce que vous comptez le domaine des yeux, c'est rien, il n'y a pas d'intérêt là pour les Romains non plus, donc on va essayer d'en créer artificiellement. Un peu comme on va ramener ça encore là, parce que les parallèles sont évidents avec Astérix et compagnie, mais où on commence à vendre le menhir qui ne sert à rien finalement. Mais c'est un peu aussi là-dedans qu'on met en place avec le domaine des yeux, avec toute la passe des gens qui se retrouvent là, qui gagnent des places, la promotion, les campagnes pour vendre le domaine. Mais finalement, on vend un projet qui va bénéficier à qui finalement, s'il ne bénéficie pas aux gens à qui on l'impose, donc aux Gaulois, qui ne bénéficie pas vraiment aux gens à qui vont l'habiter parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a rien qui est accessible à proximité en dehors des camps, en dehors du village. Donc finalement, c'est un projet qui est parfaitement inutile, qu'on met en place parce que c'est une décision politique au bout du compte. Puis, dans le fond, ben, c'est finalement le projet finit par s'écrouler sur lui-même parce que, à un moment donné, le vide de sens, l'absurde de ce projet-là émerge. Puis, c'est ce qui tue le domaine des dieux. Parce que s'il y avait eu une motivation réelle au-delà de la volonté politique pour ce projet-là, ben, effectivement, on aurait été vers une acculturation plus concrète. On aurait été comme avec ce qui arrive dans nos quartiers où il y a une demande qui est réelle pour les milieux. Puis, c'est ça qui fait que le milieu va se transformer. Pas toujours pour le meilleur, mais parce qu'il y a un appétit réel de transformation plutôt que de forcer, comme on le fait avec le domaine des yeux ou avec bien des projets résidentiels qui, au bout du compte, sont là pour exister, mais au-delà de dynamiques urbaines ou de dynamiques territoriales concrètes. Là.
Dans le système, hein, tu crées ton produit, puis après, tu essayes de créer le besoin.
Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir un besoin à l'arrivée, puis c'est clairement ce qui arrive avec le domaine des yeux, parce que s'il y avait eu un besoin, les Romains auraient gagné, au bout du compte.
Tout à fait. Il y a d'ailleurs dans cet album-là une image que je trouve délicieusement romantique, si j'ose dire, sans faire de jeu de mots, romantique, mais bon, excusez-moi.
On n'a pas le choix.
Ouais, c'est ça. Mais justement, là, c'est quand le domaine des dieux a été vidé, qu'on l'a détruit et tout ça, puis qu'on fait pousser les arbres dessus, alors une image classique, c'est-à-dire de ruines à travers la nature. La nature a repris ses droits et tout ça, puis c'est quand même... Il y a quelque chose, je trouve, un peu d'ironique dans cette image-là, parce que les Romains, ce qu'ils ont mis en place dure incroyablement dans le temps. Il y a encore... Je crois qu'il y a encore des aqueducs qui sont utilisés en Italie, d'ailleurs. Ce qui fait penser que tant aussi longtemps qu'on utilise, qu'on décide de faire, d'utiliser quelque chose, on y fait attention. Puis là, mais à travers ça, cette image-là, elle est très 20e siècle, mais elle se passe dans l'Antiquité d'Astérix. Je trouvais cette image-là très romantique à travers tout ce qu'on avait vu. Puis on trouve ça beau, nous, gens du 20e siècle, de voir des ruines comme ça à travers la nature.
Ben, surtout aussi dans la dernière case, dans la fameuse case du banquet à la fin de celui-là, tu sais, il le souligne avec justement ce côté romantique, mais ce côté nostalgique aussi. Ils ont vaincu le temps pour un moment, mais on sait bien que le temps, lui, continue sa course. Et, je veux dire, un jour, bon, c'est drôle parce que là, on est rendu tellement loin dans les considérations de Oui, mais tu sais, le village, un jour, il va disparaître, tu sais, il va s'éteindre, la modernité va l'emporter, je veux dire, tout ça n'est qu'un bref soubresaut de résistance. Mais c'est ça pareil, là. C'est aussi triste que ça puisse. Et c'est ce que ça souligne dans le domaine des dieux, justement, à la fin, de dire, oui, tu sais, on l'a échappé belle, encore une fois, mais combien de fois, là,
Puis, je veux dire, c'est des réflexions, puis tu dis à la blague, mais dans l'absolu, c'est vrai. Tu sais, puis si on aurait fait une sélection économique un peu ou autre de critique du système, ben, tu sais, finalement, tu te rends compte que l'album que tu lisais étant jeune, que tu trouvais drôle parce que c'est drôle quand Assurance Touré que ça arrive dans l'immeuble, puis même trouble là-dedans, puis c'est drôle, c'est rythmé, c'est vivant, mais tu sais, finalement, quand tu commences à gratter, puis je veux dire, oui, on extrapole un peu, mais tous les éléments sont là. Je veux dire, ces réflexions-là, clairement, je veux dire, il y a quelqu'un probablement Gossini qui a pensé, qui a voulu mettre ces éléments-là avec Uderzo, qui ont fait le choix, un peu comme ils ont fait dans le Tour de Gaulle, un peu comme ils ont fait dans les autres albums, d'aller placer ces références-là, d'aller placer ces questionnements-là, mais où ils ont l'intelligence non plus de pas, parce qu'ils ont conscience de c'est quoi leur série, puis d'autant rendu au tome 17, de pas laisser leur série se faire écraser par les thématiques qu'ils veulent placer, mais de trouver une façon à travers la série d'amener ces préoccupations-là, mais de manière quand même assez subtile au bout du compte.
Ouais. En restant toujours divertissant, hein, comme tu
ça dis. Reste une histoire ouais, divertissante, hein, d'Astérix et Obélix, qui affronte les Romains. Hein.
Ouais, ben, au-delà de ça, puis c'est encore une fois, c'est la pérennité, comme on parle de l'œuvre. Je veux dire, quand tu es capable d'interpeller justement plusieurs publics, quand tu es capable d'aller chercher quelque chose, c'est bête à dire, mais je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est la même chose que moi, je me faisais lire quand j'étais tout petit. Puis évidemment, ce qui me marquait, ben, c'était le baobab gigantesque, puis le renard, parce que j'aimais bien les animaux et tout. Et dans la même mesure que justement, tu vas lire un Astérix, t'es petit, t'as pas besoin d'avoir étudié le Rome à l'université, tu n'as pas besoin de comprendre le mécanisme économique qu'ils sont en train de mettre en place et de dénoncer. Là. Tu vas juste regarder Obélix taper sur des Romains, Astérix et Panoramix se marrer de la profonde stupidité des habitants et des Romains également, là, parce que dans tout ça aussi, il ne faut pas oublier, je veux dire, les légionnaires autour, c'est pas tous des flèches. Là, et on le voit entre autres dans la zizanie.
C'est pas les pogos plus âgé de la boîte.
Non, c'est ça. Là, je veux dire, il y a une raison pourquoi tu te ramasses en garnison autour du village gaulois en Armorique. Tu sais. C'est parce que t'es pas un futur prétorien, je te le dis tout de suite. Mais
on voit très bien d'ailleurs dans l'Astérix en Corse.
Oui, c'est ça. Quand t'es un planqué et tu te ramasses en Corse, là, c'est ça. Alors que dans les Lauriers, quand tu arrives au palais de César, on voit les légionnaires, c'est un autre trempe. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est que c'est ça, le jeune, il va se lancer là-dedans sans tout ça, il va avoir un plaisir fou. Et un plaisir assez fort qu'il va vouloir y revenir. Et justement. Oui, Marco.
Non, mais c'est parce que, en fait, Astérix, dans la BD, dans l'histoire de la BD, c'est une transition entre la BD jeunesse, la BD qui s'adressait toujours à un public jeune et pilote qui débarque et qui commence à s'adresser à la fois aux ados, adultes. Alors, Astérix, c'est vraiment la transition, là. Pilote va voir atterrir des héros comme Blueberry ou en tout cas, Charlier va débarquer avec des héros beaucoup plus sérieux, avec des histoires un peu plus ado-adultes. Mais Astérix arrive, puis c'est vraiment la transition. Là. C'est pour ça. Et c'est fait de main de maître avec le dessin d'Uderzo, ce dessin-là qui est encore les gros nez, appelé gros nez pour les Français. Et Goscinny, avec toute sa subtilité, qui arrive à faire la jonction entre les deux. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est vraiment la BD qui fait le lien.
On a peine à imaginer que quelqu'un n'aime pas cette série-là.
Ça n'existe pas.
Impossible.
Ouais.
Impossible.
Alors, regard sur Astérix, c'est peut-être une envie de replonger dans d'autres des albums, puisqu'on a été bien au-delà, je pense, des quatre qui étaient au cœur de la discussion, mais comme quoi aussi tout est imbriqué. Alors, je rappelle les titres dont on parlait de manière plus attentive, donc le tome 5, le tour de Gaulle d'Astérix, le tome 6, Astérix et Cléopâtre, le tome 15, la Zizanie et le tome 17, le domaine des dieux. On en parlait en compagnie de Jérôme Vermette, d'Édouard Tremblay, de Marco Duchesne. Un grand merci à vous trois.
Merci à toi, Raymond.
Merci.
Et on se revoit, nous, dans un intervalle relativement rapproché, puisque dans deux semaines, on aura un club de lecture additionnel, un club de lecture bonus sur des héroïnes de la littérature jeunesse internationale. Alors, on découvrira ça ensemble prochainement. Mais d'ici là, ben, merci pour cette semaine et merci à vous également d'avoir été à l'écoute. C'était Raymond Poirier au micro et on se dit à très bientôt.